breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. 'Cause I've been convicted of crime.
Le salaire à vie, c'est révolutionnaire. Telle est l'idée qui porte le réseau Salaria, association d'éducation populaire qui s'inspire des thèses du sociologue et économiste Bernard Friot. Elle milite pour l'appropriation collective des moyens de production et l'octroi à toutes et tous d'un salaire à vie. Pour cela, elle s'inspire de pratiques collectives de travail et de production alternatives au système capitaliste. On en parle avec Xavier Morin du groupe local Lillois.
Alors Réseau Salaria, c'est une association d'éducation populaire, il faudra développer le concept, hein, qui existe depuis 10-11 ans, oui, 2011, et qui s'est constituée suite au grand mouvement social des retraites de 2010, autour du sociologue Bernard Friot, du fait qu'il venait de publier un livre qui proposait une lecture radicalement différente de ce que c'est que la retraite et de l'enjeu réel de la lutte. Alors ça a intéressé pas mal de personnes à l'époque, il y a eu un petit succès de librairie. Et donc d'autres chercheurs et des militants sont venus le voir et lui ont proposé de créer une association, idée qu'il n'aurait jamais eue par lui-même, comme tout chercheur, tendance à travailler de façon isolée ou entre professionnels, entre spécialistes. Et finalement, ça l'a séduit, il l'a accepté. Et maintenant, l'association est encore jeune, bien sûr, mais elle a tout de même une dizaine d'années. Nous sommes environ entre 300 et 350 membres répartis sur le territoire, avec des petits groupes aussi en Belgique et en Suisse. Notre histoire a été mouvementée aussi, notamment en 2017-2018, où nous avons totalement changé nos statuts. C'est une expérience intéressante. Nous étions dans un format très classique, pyramidal, avec un conseil d'administration élu qui prend les décisions. Et nous avons tout changé pour avoir une organisation totalement horizontale, des charges et des pouvoirs tournants entre des groupes locaux répartis. Enfin, c'est une expérience aussi de démocratie forte, intéressante et exigeante, parce que il faut prendre en main, au lieu de compter sur une direction qui prend les décisions, d'être tranquille, planqué dans son coin, il faut à tour de rôle, prendre les responsabilités, organiser des événements, etc., s'occuper aussi bien de la comptabilité, tout, quoi. Donc nous sommes donc une association très, très démocratique, même si c'est parfois difficile à soutenir comme exigence. Et alors l'aspect éducation populaire, c'est pour sortir du schéma classique scolaire, universitaire, du public qui vient recevoir la bonne parole de celui qui sait. Là, il faut reconnaître chez Bernard Friot une ouverture d'esprit très grande, puisque lui, il dit « je suis à l'école de la classe ouvrière ». C'est bien rare d'entendre ça dans la bouche d'un chercheur. Et donc il s'agit de partager les connaissances entre nous, de les construire entre nous, qu'on soit chercheur ou pas, qu'on ait fait des sciences économiques, sciences politiques, sciences sociales ou pas. Non seulement entre nous, à l'intérieur de l'association, on travaille souvent par atelier, avec différentes méthodes qu'on peut trouver. Ça peut être la conférence gesticulée, style Franck Lepage, mais des tas d'autres techniques ludiques d'exercice et de travail, de recherche. Mais c'est aussi, on essaye aussi de le faire à chaque fois que c'est possible vis-à-vis d'un public extérieur dans les manifestations qu'on organise. C'est-à-dire qu'on essaye de faire participer énormément les personnes qui viennent nous écouter et qu'on ne soit pas simplement ceux qui diffusent la bonne parole à prendre tel quel, quoi.
Et alors toi, concrètement et localement, qu'est-ce que tu fais ici ?
Donc moi, je suis le correspondant local de Réseau Salaria sur l'île et, disons, le Nord-Pas-de-Calais dans son ensemble. J'y suis depuis 7 ou 8 ans. Je fais partie d'un groupe, donc n'importe qui, toi, si demain ça t'intéresse, tu peux devenir membre de Réseau Salaria. Et comme tu es du coin, tu seras dans le groupe local du coin. Les statuts de Réseau Salaria font que chaque groupe local bénéficie d'une très grande liberté pour organiser tous les événements qu'il entend, a droit de ponctionner une certaine somme d'argent sur le budget de l'association, si nécessaire, pour organiser ses actions. Donc, par exemple, nous faisons des séries d'interventions dans des cafés. Par exemple, en ce moment, on est sur une série de 4 interventions successives au Café Les Sarrasins, qui est une coopérative. Autre coopérative aussi, le Café Citoyen à Lille. Sinon, parfois dans des cinémas, pour défendre la sécurité sociale de l'alimentation. On s'appuie par exemple sur la diffusion d'un film pour ensuite faire débat. Parfois, c'est des salles où il y a quand même plusieurs centaines de personnes, donc c'est intéressant pour nous de profiter de ce genre de situation, par exemple pour développer une histoire du salariat, pour montrer que le salariat est révolutionnaire, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce genre de choses. Voilà. Donc on a cette liberté-là, localement, d'organiser ce qu'on veut, comme on l'entend.
Tu viens de dire que lors de vos interventions, il est question de mettre en histoire des choses comme le salariat. La pensée qui est développée par Bernard Friot et par le réseau salarien, elle a aussi une histoire. Quelle est l'histoire de cette pensée politique, en fait ? D'où ça vient ? Où ça se situe, en fait, aussi dans le paysage politique ?
Alors, on pourrait sans doute trouver, bien sûr, des fondements dans le marxisme, même si, en fait, nous sommes un courant marxiste contesté par d'autres courants. Puisque Marx parle du salariat au XIXe siècle, et au XIXe siècle, il n'y a qu'une forme de salariat, c'est le statut du travailleur libre sur un marché qui succède au servage de l'ancien régime, qui existe encore, c'est le statut du travailleur indépendant. Ça va être l'auto-entrepreneur, le paysan, l'artisan. En fait, c'est un statut qui ne mérite même pas le nom de statut, puisque c'est aucun droit n'y est associé à ce statut, ni le droit à la retraite, à la maladie, etc. Donc c'est le capitalisme pur et dur. Et quand Marx critique le salariat, c'est de ce salariat-là qu'il parle. Or, après la mort de Marx, la vie continue. Et au début du XXe siècle, la classe ouvrière commence à renverser, à subvertir ce que c'est que le salariat, en imposant la création du contrat de travail. C'est-à-dire qu'elle contraint le capitaliste à devenir employeur et à respecter des droits. Avant cette histoire d'institution du contrat de travail, il y avait au XIXe siècle ce qu'on appelle le contrat de louage d'ouvrage, qui faisait intervenir trois acteurs, le capitaliste pur et dur, le marchand intermédiaire et les travailleurs. Le capitaliste passait commande pour un produit fini, par exemple à Lyon, dans le tissu, la soie, il commandait 200 mètres de tissu de telle qualité. Il le commandait à un marchand. Le marchand allait voir des ouvriers qui travaillaient chez eux dans leur maison avec leurs femmes et leurs enfants pendant 16 heures par jour, quoi, à fabriquer ce tissu. Et le capitaliste achetait le tissu. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune responsabilité, il n'y avait pas de droit du travail, c'était un droit du commerce, c'est tout. C'était du commerce. Et le travail était invisibilisé. De ce fait, les travailleurs qui travaillaient le tissu, les canuts à Lyon, n'étaient pas reconnus en tant que travailleurs. Ils n'avaient pas de droits particuliers. Ça, c'est vraiment le capitalisme pur et dur. À force de lutte, au début du XXe siècle, donc 1910, institution du contrat de travail, contrainte du capitaliste à devenir employeur. Et tout ça, c'est à l'origine du droit du travail, le code du travail, des conventions collectives, de la qualification du travailleur, où chaque poste de travail est reconnu comme un certain niveau de qualification correspondant à un certain niveau de salaire. Donc ça, c'est le début de la révolution du salariat au XXe siècle, qui va changer beaucoup de choses. Et ensuite, alors, ça va aller encore plus loin, c'est en 1946, où là, le salariat va instituer la qualification, non pas du poste de travail comme dans le privé, comme dans l'emploi, mais la qualification de la personne elle-même. C'est ce qu'on appelle le salaire à vie. C'est une qualification personnelle. Pour exemplifier, pour que les gens comprennent, on a pu observer, là, pendant la période du Covid, de façon flagrante, de façon choquante même, cette situation du salariat. Donc, dans ce que je viens de dire, il y a trois niveaux différents. Donc, il y a le statut le pire, qui est celui de l'indépendant. Il y a le statut intermédiaire, demi-révolutionnaire, à moitié révolutionnaire de l'emploi où le poste de travail est qualifié. Mais par contre, ce n'est pas le travailleur qui est qualifié. Et il y a le statut du salaire à vie où c'est la personne qui est qualifiée. La qualification lui est attachée personnellement. Qu'est-ce qui se passe pendant le Covid ? Le travailleur indépendant, auto-entrepreneur, s'il ne peut pas travailler, parce que le Covid interdit son activité, eh bien son salaire, c'est zéro. C'est catastrophique. Ensuite, pour celui qui a un niveau supérieur de statut, c'est donc l'employé dans l'emploi capitaliste. Si sa boîte ferme pendant le Covid, s'il y a un problème d'activité à cause du Covid, bon bah il touchera quand même 84% de son salaire au chômage. C'est quand même une différence. Déjà, on voit qu'il y a de la révolution derrière ça déjà. Et ensuite, troisième niveau, le salaire à vie. Le titulaire de la fonction publique, l'infirmière de l'hôpital public, par exemple, eh bien, même si son poste de travail est fermé à cause du Covid, 100% du salaire, puisque c'est un salaire à vie, c'est un salaire attaché à sa personne. Tous les droits sont associés à sa personne. Même s'il n'y a pas de travail pendant cette période, même si pendant 3 mois, il n'y a pas d'activité, le salaire continue d'être versé. Donc, en fait, c'est un droit politique au salaire qui est absolument révolutionnaire. Et alors, on est habitué à s'entendre dire à Réseau Salariat que salaire à vie, c'est utopique, etc. Mais sur à peu près 50 millions d'adultes en France, il y en a 16 à 17 millions qui ont un salaire à vie. Il y a un tiers des adultes qui ont un salaire à vie. Et nous, on veut le généraliser.
Est-ce que ce serait un raccourci que de dire que le salaire à vie, qui est l'idée centrale aussi du réseau salariat, ce serait accorder le statut de fonctionnaire et de l'étendre même aux entreprises privées?
Alors effectivement, c'était même un peu un raccourci, même si effectivement une bonne partie du salaire à vie existant actuellement concerne la fonction publique. Concerne la fonction publique alimentée par la cotisation sociale que vous voyez sur vos feuilles de paye, pour ce qui est par exemple de la santé, ou ce qui est de la retraite, etc. Et puis une partie par l'impôt, par exemple un enseignant a un salaire à vie, bien sûr s'il est titulaire. Et là c'est alimenté financièrement par l'impôt. Mais le salaire à vie a pris plusieurs formes. Il y a le salaire à vie donc, qui vient de l'impôt ou de la cotisation sociale pour donc, effectivement la fonction publique. Ça concerne actuellement environ 5 à 6 millions de personnes, même si la classe dominante a tendance à vouloir transformer les titulaires de la fonction publique en contractuels et pour les précariser, etc. Il y a tout un pan du salaire à vie qui est la retraite. Alors nous, on ne compte pas 100% des retraités parce qu'une partie d'entre eux est vraiment quand même dans la précarité et n'a pas une retraite suffisante. Mais nous avons une lecture de la retraite comme un salaire et non pas un salaire différé comme nous raconte toute la classe politique, même la gauche, qui nous dit qu'on a cotisé, donc maintenant on a droit. Donc notre salaire est différé. Nous, on a une lecture de ça comme un salaire continué, avec des retraités que l'on considère comme des travailleurs. Ensuite, il y a d'autres expériences concrètes qui existent de salaire à vie, par exemple les statuts spéciaux, les régimes spéciaux, SNCF, etc. Il y a eu France Télécom, La Poste, même si tout ça s'est attaqué aussi, bien sûr, par le patronat et la classe dominante. Et puis, il y a aussi encore d'autres secteurs, tels que dans la métallurgie, des secteurs dans lesquels le syndicalisme était très puissant, et a obtenu ce qu'on a appelé le droit à carrière, qui fait que tant qu'on reste dans cette branche d'activité, c'est ça un petit peu la limite, eh bien on peut changer d'entreprise, mais on ne peut pas baisser de salaire. On va forcément augmenter ou stagner, mais en tout cas on ne peut pas régresser. Donc c'est une forme de continuité du salaire dans un parcours de carrière qui est proche de ce qu'on peut appeler un salaire à vie. Voilà. Maintenant, le salaire à vie tel qu'il existe, donc... Effectivement, pour l'instant, il est marqué majoritairement par le statut de la fonction publique, les fonctionnaires réputés ne rien faire, réputés fainéants et l'œil sur la pendule pour partir 5 minutes avant l'heure. Mais alors d'abord, ça c'est faux, puisque des enseignants ou des infirmières, je pense qu'on peut vraiment dire qu'ils travaillent, qu'ils produisent. Ce ne sont pas une dépense publique, comme le disait le patronat. Voilà. Et puis on peut étendre le salaire à vie dans d'autres activités. Par exemple, nous, quand on propose de rajouter une branche au régime général de la sécurité sociale, qui serait une branche alimentation. Donc on a une sécurité sociale de l'alimentation. Eh bien, les travailleurs de ce secteur, qui seraient par exemple des paysans, les gens qui transforment la nourriture pour faire des plats, ceux qui distribuent la nourriture, même ceux qui seront dans la restauration, pourquoi pas, enfin tout le secteur de l'alimentation, et qui actuellement est un secteur privé et qui souffre, les paysans, ils s'en suicident beaucoup, hein. Eh bien, ils deviendraient titulaires d'un salaire à vie. Donc on aurait tendance à dire aujourd'hui, ce serait des fonctionnaires, ils seraient fonctionnarisés. On a du mal à imaginer actuellement qu'un paysan puisse être fonctionnaire. Donc c'est vraiment une histoire de langage. Simplement, le travailleur de la terre aurait un salaire à vie, un vrai statut de travailleur. Et en période de Covid, même si son activité, imaginons que son activité serait bloquée, il continuerait d'avoir son salaire tous les mois. Donc c'est la droite ou réactionnaire critique de nos propos en disant qu'effectivement ce serait un fonctionnariat généralisé, le monde des salaires à vie. Moi je ne le crois pas du tout, vraiment pas du tout. Et en plus ça dépend quelles idées on met derrière, quelles suppositions on accole au mot fonctionnaire. En fait, si on a un salaire à vie, ça nous donne une liberté d'agir, ça nous donne une souplesse dans les parcours de vie, dans la biographie, pour pouvoir, si on veut, changer d'activité, faire une pause pendant 2-3 mois avant de se lancer dans une autre activité, sans être sans arrêt dans la crainte de perdre son emploi, de se retrouver au chômage, d'avoir des difficultés. Donc c'est au contraire, c'est un statut qui peut donner un certain dynamisme au travail et à l'activité pour chacun. Donc cette critique-là, elle est... Je ne dis pas qu'elle vient de toi, hein, mais cette critique-là, elle est réactionnaire, en fait, de penser que ce serait un monde de fonctionnaires, quoi.
Le salaire à vie est présenté par le réseau Salaria comme une révolution. En quoi est-ce révolutionnaire, en fait? Qu'est-ce que ça amènerait en termes de renversement politique?
Alors d'abord, il faut dire que nous avons une vision de la révolution en tant que phénomène économique avant d'être un phénomène politique. C'est-à-dire qu'une révolution, c'est pas le grand soir du jour au lendemain. Pour qu'il y ait une révolution, il faut des siècles. Ça se passe sur des siècles. On est passé de l'ancien régime, donc c'est-à-dire du mode de production féodal, au mode de production capitaliste, a pris 5-6 siècles. Les prémices du capitalisme, c'est vers le 14e siècle, à l'époque où c'était ultra minoritaire, dans un monde aristocratique. Et le temps que cette bourgeoisie se forme, s'enrichisse progressivement, commence à accumuler du capital, etc. Puis ça prend un temps fou, avec des avancées et des reculs, parce qu'elle est combattue, bien sûr, par l'aristocratie. Puis arrivée au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, elle a le pouvoir économique. Elle n'a plus qu'à renverser le pouvoir pour prendre aussi le pouvoir politique. Le grand soir, en fait, c'est la cerise sur le gâteau à la fin du processus. Bon, là, maintenant, nous sommes engagés dans le processus qui succède dans l'histoire, depuis la Révolution française. Nous avons commencé à avoir de nombreuses victoires depuis la moitié du XIXe siècle, jusqu'à, 1968, on va dire. Les victoires ouvrières se succèdent de façon extraordinaire. Et par contre, depuis un demi-siècle, on régresse et on est attaqué sur toutes ces avancées que Bernard Friot pointe du doigt, justement, qui sont la cotisation sociale, le salaire à vie. C'est ça qui est attaqué par le patronat actuellement. Pourquoi c'est révolutionnaire, le salaire à vie? Pour le capitaliste, le travail, c'est ce que tu fais quand tu produis quelque chose sous ses ordres et à son profit. Quand tu fais fructifier du capital, là, c'est du travail. Uniquement pendant que tu le fais. Dès que tu arrêtes de le faire, tu ne travailles plus, tu n'es pas un travailleur. Et si tu fais une activité qui, certes, il va concéder le fait que cette activité est utile, mais si elle ne fait pas fructifier du capital, pour lui, c'est pas du travail. C'est même de la dépense si tu es fonctionnaire. C'est une dépense, quoi, pour lui. Il estime que c'est une dépense que tu fais sur son activité à lui, en lui piquant de l'argent à travers les cotisations ou à travers l'impôt. C'est comme il ne suppose pas, ce capitaliste, que la santé, par exemple, ou l'enseignement public, c'est de la production. On peut observer pourtant que si une école publique, demain, on dit on va la privatiser, ça va devenir une école privée, tout d'un coup, ce sera de la production, ce sera plus de la dépense. Pareil pour une clinique, par exemple, un hôpital public, on va dire que c'est de la dépense, de fonctionnaires, etc., que ça pèse sur le capital, il faut baisser tout ça, il faut... Et puis, par contre, si cet hôpital, il devient clinique privée, alors là, c'est bien, là, c'est de la production, là, c'est du travail. Donc, en fait, le salaire à vie, il est absolument révolutionnaire, au sens où ceux qui travaillent avec un salaire à vie ne font pas fructifier de capital. C'est un bras d'honneur aux capitalistes. Radical et macroéconomique à grande échelle. Donc c'est pour ça que c'est absolument insupportable aux yeux de la classe dominante qui fait tout pour s'y attaquer constamment. Voilà, c'est constant, c'est dans son obsession, quoi. C'est d'en finir avec le fonctionnariat, en finir avec les cotisations sociales, avec le droit à chômage, le droit à la retraite, le droit à la maladie, privatiser tout ça.
Généralement, on conçoit la révolution comme quelque chose à venir. Et on pourrait concevoir le salaire à vie comme quelque chose à venir. Or, c'est quelque chose qui existe déjà, qui s'inscrit dans un long processus révolutionnaire. Quel serait malgré tout l'avenir du salaire à vie ? Qu'est-ce qu'il faut conquérir ?
Tu as raison de souligner que ce n'est pas... La révolution n'est pas un acte... circonscrit comme ça, même sur une courte période, c'est un processus historique au long cours qui dépasse largement la vie d'un homme. C'est plusieurs générations. Donc ça, c'est le premier point. Il s'agit de prendre en main la production, ne plus avoir cette petite classe dominante qui décide de ce que c'est que le travail, décide de ce que c'est que la valeur, décide de ce qui vaut, ce qui ne vaut pas, décide que toi tu travailles pas, puis je te prends, puis je te jette, etc. Non, il s'agit de s'imposer en tant que producteur, d'avoir un véritable statut de producteur comme un droit politique de la vie, disons de la majorité jusqu'à la mort, de se poser en tant que tel sans avoir à justifier d'une manière ou d'une autre qu'on est en train de travailler ou pas. C'est quand même un peu comme le statut de citoyen. On ne demande pas à ceux qui votent de remplir un cahier des charges pour voir s'ils vont avoir le droit de voter ou pas, quoi. Peu à peu, on a conquis le fait que le droit de vote est universel, quoi, à partir de la majorité. Et bien là, il s'agit d'être reconnu en tant que travailleur de façon générale et définitive sur toute une vie. Donc, en fait, c'est une extension de la citoyenneté au domaine de l'économie. Parce qu'en fait, la citoyenneté politique telle qu'elle existe, c'est quelque chose de bien pauvre. Si elle ne s'appuie pas, si elle ne se repose pas sur une citoyenneté économique réelle, forte, affirmée, quoi. C'est quand même un droit politique, d'accord, mais c'est un peu léger, quoi. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir changer... Prendre en main la production, il faut qu'on soit tous co-responsables de la production, sans que cette petite classe dirigeante oriente tout ça, quoi.
Eh ben, moi, je pense qu'il faut virer tout ça. Tout ce système, il faut le mettre en l'air. Et que ça soit nous, les travailleurs, nous qui produisons toutes les richesses, qui prenons les choses en main.
En termes concrets, qu'est-ce qui reste à conquérir, en fait, pour mettre en place, en fait, ce statut ?
Alors, donc, le statut, il existe, il est institué. Il concerne, j'ai dit, au moins 15 à 16 millions de personnes en France. Donc, c'est vraiment pas rien. c'est quasiment un tiers. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais pour nous, on appelle ça le communisme. Le gros mot qui fait peur. Pour nous, derrière communisme, ce n'est pas Goulag, Staline, URSS. Derrière le mot communisme, qui est très beau et que nous défendons, il y a régime général de la sécurité sociale. C'est ça, c'est un trésor, c'est notre trésor. Alors, actuellement, donc, en fait, il y a 25 à 30% de l'économie française qui est communiste. Alors, c'est jamais dit, bien sûr, mais on n'est pas dans un capitalisme pur, bien heureusement. Ce serait un retour au 19e siècle que d'être dans cette situation-là. Donc 25 à 30%, c'est déjà beaucoup. C'est la première marche posée par nos anciens est formidable, puisque malgré 50 ans d'attaque très forte, ce socle est quand même encore très présent. Il est un peu rongé par-ci, par-là. Il est un peu abîmé par différentes lois, etc., qui ont été votées. Mais malgré tout, c'est encore là. Donc il s'agit de l'étendre à 100% de la population, qu'on ait tous un véritable statut de producteur, que cette question soit définitivement réglée, pour qu'enfin, on puisse ne plus être sous la menace d'être exclu du travail. Parce qu'en fait, c'est ça le capitalisme. Il faut montrer patte blanche pour être reconnu comme travailleur, avec des lettres de motivation et tout ce qui s'ensuit, tout ce théâtre délirant de soumission. Alors quand on est jeune, on est trop jeune pour travailler. Après, on est trop vieux pour travailler, on exclut aussi. On est sans arrêt sous la menace de se faire virer, donc de perdre son emploi et toutes les conséquences qu'il y a derrière au niveau social qui sont très très lourdes. Hein. Ça abîme tout, hein. Ça abîme la vie familiale, etc. C'est catastrophique. À partir du moment où on aurait tous un salaire à vie, toute cette menace qui pèse sur nos vies, mais constamment, disparaît. Il s'agit de travailler non plus par obligation, par soumission, par survie, par tout ça. Non, il s'agit de redonner au mot travail ses véritables lettres de noblesse. Hein. Ce n'est pas le tripalium dont on nous parle régulièrement. Le tripalium, c'est le travail, si on veut. Enfin, ça n'a aucun rapport étymologique, contrairement à ce qu'on croit. Mais à la limite, pourquoi pas, le tripalium, c'est le travail capitaliste, le travail aliéné. Ouais, on souffre, effectivement. Quand on dit que le mot travail vient de tripalium, ben, on exprime en fait qu'on souffre au travail. Mais en fait, le mot travail vient d'ailleurs, il vient certainement du verbe traverser, c'est-à-dire qu'il faut traverser les difficultés pour réaliser quelque chose. Et c'est ce qui fait la beauté du travail. Avec un statut de producteur, salaire à vie, là, on va pouvoir travailler pour faire quelque chose, pour que ça ait du sens, pour le faire ensemble, pour... Parce qu'en fait, le travail, c'est ça qui donne... L'activité, en général, c'est ça qui donne du sens. La vie en elle-même, à l'état de nature, enfin, la vie n'a pas de sens particulier. Ce serait difficile de donner un sens à la vie. L'homme crée le sens à travers son activité, notamment le travail. Dès qu'on fait quelque chose, on rentre dans une téléologie des moyens pour parvenir à des fins. Et c'est là qu'il y a un sens qui se crée. C'est ça être un être humain, c'est ça. Et en fait, le capitalisme, quand on regarde bien, c'est d'autant plus terrifiant, c'est qu'il nous attaque sur quelque chose qui est le travail, qui est ce qui nous constitue réellement en tant qu'être humain à travers nos activités. C'est une grosse partie de ce qui fait qu'on se réalise en tant qu'être humain, qu'on s'enrichit en tant que personnalité. Et c'est ça qui est rongé, qui est attaqué, qui souffre dans notre société, parce qu'on n'a pas de statut. On a un statut de travailleur libre sur un marché, les aléas du marché, on peut se retrouver à la rue assez facilement. Enfin, ou alors on a certes un progrès énorme au niveau des luttes qui est l'emploi avec des droits attachés à notre statut de travailleur dans l'emploi. Mais c'est une demi-victoire seulement parce que là, on a un lien de subordination et on va au travail, on obéit à une hiérarchie, puis on n'a pas trop notre mot à dire, quoi. Donc pousser au bout cette libération, c'est aller jusqu'au statut de producteur avec salaire à vie pour prendre en main la production collectivement. C'est là que ça commence, la difficulté. C'est qu'il faut être capable de le faire collectivement, ça. Certains y arrivent à le faire de façon isolée. C'est remarquable. Hein. Une petite coopérative où il y a véritablement une subversion de ce que c'est que le travail dans le capitalisme, ça peut fonctionner, mais c'est fragile. C'est pas facile d'être en coopérative sur un marché capitaliste. Ce qu'il faut, c'est faire ça de façon macroéconomique globalement pour tout socialiser. Voilà. Et c'est comme ça qu'on pourra se libérer de ce qui bouffe nos vies, quoi, ce qui ronge nos vies dans le capital, quoi. Voilà, en gros, le chemin, elle est là, et on en a, mine de rien, on en a, sur 2 siècles, on en a fait un gros morceau, quoi. On a posé les bases. Il y a un chemin qui se propose, c'est ce que nous, on appelle le déjà-là. C'est le mot qui revient sans arrêt à Réseau Salariat. Il y a un déjà-là communiste dans notre société, d'ailleurs pas seulement en France, hein, ça prend d'autres formes dans des pays voisins, des formes assez proches d'ailleurs. Donc il faut le voir, il faut commencer par avoir cette lecture de l'histoire qui nous montre ce déjà-là, pour qu'on puisse l'améliorer, parce qu'il n'est pas parfait, et surtout le généraliser. Voilà, en gros, le chemin révolutionnaire qui est devant nous, qui est déjà commencé.
Travaillez plus, gagnez plus, j'aurai moins de temps. Le temps, c'est de l'argent, j'aurai moins d'argent. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas, ouais, travailler du tout.
Ça signifierait quoi pour un individu que le salaire à vie soit mis en place ? Est-ce qu'à sa majorité, il toucherait un salaire, peu importe qu'il ait une activité professionnelle ou pas, s'il est au chômage, s'il n'a pas envie, est-ce qu'il le touche ? Comment ça se mettrait en place, en fait ?
Bien, par exemple, puisque tu évoques un jeune qui arriverait à la majorité, sache qu'en 1946, qui est vraiment pour nous la grande année révolutionnaire de la sécurité sociale qui devient enfin un régime général socialisé, il y a une loi qui a failli passer, qui n'est pas passée à peu de choses près à cause du Parti Socialiste de l'époque, comme d'habitude, c'était le salaire étudiant. Nous avons failli instituer en 1946 le salaire étudiant. D'ailleurs, nous avons parmi nos camarades dans l'association un chercheur, Aurélien Casta, qui a écrit un livre sur cette histoire-là, cette histoire du salaire étudiant. Eh bien, ce statut de salaire à vie fait que chacun peut se lancer dans l'activité librement, avec seulement les contraintes inhérentes au travail, c'est-à-dire que le travail, c'est toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, contourner certaines difficultés pour parvenir à faire quelque chose et à le faire bien. Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait des contraintes d'un autre ordre qui sont des contraintes prédatrices capitalistes. Voilà. Donc, par exemple, l'indépendant qui aujourd'hui doit s'endetter, travaille. Par exemple, le paysan, voilà, on va dire ça. Le paysan, il travaille toute sa vie pour rembourser une dette au Crédit Agricole. Donc, en fait, il travaille pour le Crédit Agricole. Ensuite, il travaille aussi pour son client qui est Leclerc au Carrefour, qui lui bouffe toutes ses marges, quoi. Et puis, il travaille aussi pour son fournisseur qui est Bayer Monsanto, qui l'écrase également. Donc, il est cerné par des monstres capitalistes qui lui bouffent la vie et qui lui laissent juste de quoi survivre dans son champ de patates, quoi. Voilà. Et bien, dans le monde du salaire à vie, l'indépendant, il n'est plus du tout dans cette situation-là. Il peut, par exemple, vouloir créer une activité seul ou avec des camarades, quoi, l'association de travailleurs libre, il va pouvoir s'installer, il ne va pas s'endetter, il ne va jamais travailler pour rembourser une dette, il va travailler pour produire ce qu'on appelle une valeur d'usage. C'est-à-dire quelque chose qu'ils vont estimer d'utile ou de beau ou d'intéressant pour la société. Ça va être ça l'enjeu du travail. C'est très très motivant de faire quelque chose pour le sens que ça a ou pour la beauté que ça peut avoir, l'utilité sociale que ça a avoir, et non pas pour soit pour souffrir et rembourser une dette absolument et que c'est pas facile, ou soit pour essayer de s'enrichir sur le dos des autres au maximum, etc. On sort de cette logique économique délétère, monstrueuse à laquelle nous sommes habitués, pour que le fait de travailler soit le fait de vouloir produire ce qu'on appelle donc la valeur d'usage des choses. Alors ça, c'est super motivant, parce que qu'en fait, la vraie motivation qu'on a, si on n'a plus de soucis d'ordre économique, si on travaille plus uniquement pour payer le loyer et les factures, c'est d'avoir une reconnaissance sociale dans la société dans laquelle on vit, de l'utilité ou l'intérêt ou la beauté de ce qu'on fait pour les autres. Ça, c'est une motivation merveilleuse. Et c'est ça qu'il s'agit de remettre au premier plan de la scène, voilà, en haut de la pyramide des priorités. Voilà, sortir de ce monde de chantage et de souffrance dans lequel on est. Donc ce jeune homme, il pourra se lancer dans une activité, je ne sais pas, il veut créer, une radio. Voilà, il veut créer une radio avec des camarades. Bon, eh bien, Il n'a pas besoin d'aller s'endetter dans une banque commerciale pour le faire. Il va passer par ce que nous, on appelle un comité économique qui va pouvoir lui attribuer des locaux, du matériel, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, on est parti pour 2 heures d'un schéma économique de ça. Mais c'est tout à fait viable de pouvoir librement exercer ses activités. Simplement, une chose dont il faut être conscient, c'est que ce dont je parle depuis le début, c'est de la liberté, d'être libre dans le travail. Mais le coût à payer n'est plus d'ordre de c'est d'être responsable. Du coup, on devient responsable. Dans le capitalisme, on est irresponsable, on est des enfants, quoi. Déjà, dans le système politique, quand on élit quelqu'un, en fait, c'est lui qui va décider pour nous. On est des enfants. Hein. Au travail, c'est pareil, on obéit, on est des enfants. C'est ce qu'on nous a appris à l'école, d'ailleurs. Tandis que là, il s'agit de prendre en main la production de toute la société, d'avoir une conscientisation plus large de notre responsabilité dans ce qu'on fait, dans notre production. Donc il s'agit de devenir adulte, en fait. C'est ça qui n'est pas facile. Non seulement parce qu'on a en face de nous une classe dominante qui veut continuer de nous infantiliser pour bien nous exploiter, mais aussi parce que c'est confortable parfois. Certes, on souffre de cette classe qui nous domine, mais du coup, par exemple, quand on quitte la boîte le soir, on ne s'occupe pas de la comptabilité, on n'en a rien à foutre, quoi. Voilà. Avec là, il s'agit de devenir responsable aussi. C'est-à-dire que, certes, on n'aura plus cette souffrance, cette exploitation, cette domination observable aujourd'hui, mais ça veut dire aussi devenir responsable de tout ça. Devenir grand, devenir adulte. C'est ça le salaire à vie, en fait.
Moi, ce que j'aime, c'est glander. Quand je glande, faut pas m'emmerder. Et pour être sûr de me lever tard, tous les soirs je me fume un pétard. J'aime pas travailler patron. Tu crois que je te prends pour un con?
Ça boule sud, hein.
Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux, j'aime pas retravailler du tout. Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage, à me dorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaye de rester positif. Si je dois redoubler l'effort, alors directement je m'endors. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas ouais, travailler du tout. Et si un jour, un beau matin, je dois m'en aller au turbin, et je partirai pour un Pérou. Dans la cordillère des Andes, je créerai la République de la glande. Travailler sans interdit, maximum syndical garanti. Ce sera un pays sans banque, ce sera un pays sans banque. Et tant qu'il sourd à moi joint, travaillerai jamais debout. Pensez pas me faire bosser assis, encore moins me faire taffer à genoux. Je ne travaillerai plus du tout. Finalement je ne travaille pas, papa. Je ne cherche même pas d'emploi. Et je reste là à vivoter au soleil sans me préoccuper. Au soleil sans préoccuper.